Gloire à Dieu. Mes bien-aimés, je suis heureux ce matin de vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est au milieu de nous ce matin et pour ne pas faire autre chose que ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, je voudrais que l'Église se lève. Vous allez vous lever, mes bien-aimés, et nous allons faire une chose qui n'est pas commune ni habituelle, mais nous allons acclamer Jésus ce matin. Nous allons l'acclamer comme étant conscient de sa présence au milieu de nous, comme le héros de Dieu. Nous allons l'acclamer comme le lion de la tribu de Judas qui a vaincu le lion rugissant et qui a vaincu pour nous le monde, le péché, Satan, les démons, les mauvais esprits, la mort et le séjour des morts, et qui a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Nous allons l'acclamer comme celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, mais qui nous est montré ce matin couronné de gloire et d'honneur. Nous allons l'acclamer comme celui qui a enduré l'opposition de la part des pécheurs, mais qui en même temps a méprisé l'ignominie en vue de la joie qui lui était réservée. Nous allons l'acclamer comme celui qui déclare dans l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 16, « Je suis le premier et le dernier et le vivant. Voici, j'étais mort et je suis ressuscité vivant au siècle de siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Nous allons maintenant pouvoir avancer dans le service. Nous avons acclamé le Maître comme pour lui non seulement souhaiter la bienvenue, mais pour lui montrer que nous sommes reconnaissants, nous sommes heureux d'être dans sa présence et nous sommes contents de lui appartenir. Gens de la maison de Dieu, membres du corps de Jésus-Christ, citoyens des cieux, rachetés du Très-Haut, pierre vivante constituant l'édifice que Jésus bâtit l'Église, et puis aussi, pour ne pas oublier l'enseignement de dimanche matin, dimanche dernier, ceux qui ont part à la vie éternelle. Gloire à Dieu. Nous sommes gens de la maison de Dieu et nous savons dans l'espérance qu'un jour nos yeux verront le Maître Jésus-Christ. Le frère Léon dit que Jésus nous aime. Mais savez-vous que je vous aime, frères et sœurs? Je vous aime de l'amour de Jésus. On n'est pas parfait, c'est vrai. Nous sommes ce que nous sommes avec la grâce de Dieu. Mais le commandement du Seigneur est pour nous, aimez-vous les uns les autres. Viens nous aimer les uns les autres parce qu'à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Mais justement, c'est en notre qualité de disciples que maintenant, nous allons écouter une parole qui est sortie de la bouche de Jésus. Cette parole, le Seigneur Jésus la donne dans un contexte particulier. Il consiste dans le fait où, dans l'évangile de Matthieu, à partir du chapitre 5, nous voyons Jésus qui voit la foule. Voyant la foule, Jésus est monté sur la montagne. Puis la Bible nous dit que ses disciples l'ont suivi, puis s'étant assis, Jésus va commencer à enseigner ses disciples. Et c'est dans le cadre de cet enseignement-là que la parole que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin pour que nous puissions partager au travers de l'enseignement, recevoir sa pensée, en même temps ses instructions et ses directives, que nous allons regarder dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 6, et que nous allons trouver à partir du verset 22. Et cette parole que le Seigneur a mise dans mon cœur
et nous concerne tous ce matin en notre qualité de disciples de Jésus-Christ. Amen. Vous savez ce que c'est qu'un disciple? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un disciple? Oui. Alors un disciple, dans la définition que nous pourrions y apporter, c'est quelqu'un qui a accepté un maître, et en acceptant ce maître, il a accepté en même temps de recevoir l'enseignement du maître pour qu'en s'appliquant à ce que le maître lui a enseigné, il soit de plus en plus utile dans la main de ce maître. Ça vous convient? Oui. Donc ce matin, comme disciples de Jésus-Christ, nous avons tous Jésus-Christ pour maître. Vous vous rappelez, il y a quelque temps, Dieu nous a permis de nous arrêter sur cet aspect de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous avons considéré, selon l'intitulé du message, Jésus maître. Vous vous rappelez, c'est pas vieux, il y a à peine un bon mois, hein. Jésus maître. Et puis, le sermon sur la montagne que nous allons considérer, justement, à partir du moment où nous avons vu Jésus, le maître, s'adressant à ses disciples, le sermon sur la montagne comporte en quelque sorte un enseignement dispensé aux disciples du maître, et c'est au travers de cela que, en sa qualité de maître par rapport à ses disciples, le Seigneur va nous donner à considérer ce qui va, eh bien, servir à autant notre enseignement, notre développement dans la foi, notre avancement sur le chemin de la persévérance, notre attachement aux choses d'en haut, enfin tout un tas de critères spirituels qui sont importants et applicables aux disciples de Jésus-Christ que nous sommes ce matin. Mais là, dans cet enseignement-là, dans ce que Jésus va donner à considérer, il nous dit, dans Matthieu, référence 6, verset 22, Jésus dit, l'œil, dites avec moi, est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Quelqu'un a dit amen. Oui, amen. Et puis il continue, mais si ton œil n'est pas en bon état, cela veut dire qu'il est en mauvais état, alors tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes seront ces ténèbres? À qui Jésus s'adresse-t-il? Assez? Donc il s'adresse à qui ce matin? À nous. Il s'adresse à nous ce matin. Alors la question qu'on pourrait se poser, je me la suis posée pour moi. Mais celui que nous avons acclamé tout à l'heure, en l'applaudissant, en célébrant notre joie d'être venu à sa rencontre, il s'adresse à nous, chacun, de manière personnelle, au travers ce que nous venons de lire. Alors la question, je viens de vous dire, que je me suis posée quand je lisais ce texte, et quand je préparais le sujet, Claude, quel est l'état de ton œil ce matin? Oui, quel est l'état de mon œil? Puisque je viens de lire que si mon œil est en bon état, tout mon corps sera éclairé. Mais si mon œil est en mauvais état, eh bien tout mon corps sera dans les ténèbres. Alors ce matin, la question, on se la pose. Voulez-vous vous la poser vous-même? Quel est l'état de mon œil? Eh bien, nous allons voir dans l'Écriture quelques pensées qui vont agrémenter ce que le maître dit, car ce n'est pas moi le maître s'appelle Jésus-Christ. Et c'est le maître qui nous enseigne comme ses disciples quant à l'état de mon œil ce matin. Si mon œil est en bon état, tout mon corps sera éclairé. Mais si mon œil est en mauvais état, alors tout mon corps sera dans l'œil. Dans le corps a été placé à un endroit spécifique. Et puis Dieu a pris soin que nous ayons des oreilles. Combien? Deux oreilles. C'est comme si Dieu avait placé l'organe qui s'appelle l'oreille dans un lieu stratégique afin que cet organe qui s'appelle l'oreille serve à nous faire entendre la voix du Seigneur. Et aussitôt que nous avons entendu sa voix, nous mettons dans l'activité pour pratiquer ce qu'il nous a dit. Ça va toujours? Oui, mais vous me dites amen. C'est mieux de me dire amen. Mais dans la réalité, frères et sœurs en Christ, il arrive que nous entendons beaucoup de choses de la part du Seigneur. Nous entendons beaucoup de choses que le Seigneur nous dit, soit dans l'enseignement, soit que le Saint-Esprit dit à nos cœurs. Mais dans tout ce que nous entendons, nous devrions déjà depuis longtemps, comme l'Épître aux Hébreux nous l'appelle, vous qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments élémentaires. Cela veut dire que nous qui devrions, avec l'enseignement que le Seigneur nous donne depuis toutes ces années, être beaucoup plus avancés dans la vie chrétienne, eh bien, nous avons besoin que constamment le Seigneur nous répète et nous rabâche les mêmes choses. Parce qu'entre ce que nous avons entendu et ce que nous pratiquons, il y a de la marge. La personne ne dit amen, hein? Mais c'est là qu'il faut dire amen. Parce que celui qui sonde les cœurs et les reins, nous l'avons applaudi tout à l'heure, il est au milieu de nous. Il connaît chacune de nos vies en détail. Et si le Saint-Esprit ce matin prend soin de nous ramener à l'enseignement de Jésus concernant mon œil qui est la lampe de mon corps, et cette réalité que si mon œil est en bon état, tout mon corps est éclairé, le Seigneur sait ce qu'il fait. Et il sait ce qu'il dit. Parce qu'il voit que dans certains domaines de nos vies, malheureusement, beaucoup de choses qui, quelquefois, nous freinent dans notre marche, nous bloquent dans notre élan, dans notre avancée sur le chemin de la persévérance, sont fort souvent tributaires de l'état de notre œil. La première chose que le Seigneur fait, il a mis en évidence premièrement l'état de l'œil. Oui, il amène la réalité. Si l'œil est en bon état, voici ce qui va en découler. Mais aussi, il prend soin de mettre en évidence que si l'œil est en mauvais état, voici ce que cela va amener. Aussitôt après, nous voyons que Jésus va associer à l'état de mon œil ce qui suit à partir du verset 24. Et pas 24. Oui, c'est ça, 24. Verset 24. Regardez ce qu'il dit. Lisez-le, s'il vous plaît. Servir, attendez, n'allez pas si vite. Nul ne peut servir. Donc le Seigneur associe, premièrement, au service, l'état de mon œil. Si mon œil est en bon état, mon service sera conséquent. Mais si mon œil est en mauvais état, mon service ne sera pas conforme à ce que Dieu voudrait. Ce qui nous montre d'emblée que si mon œil est en bon état, j'aurai un discernement spirituel approprié et appliqué au service qui est ce qui doit découler de ma réalité d'enfant de Dieu. Ça a l'air de rien, frères et sœurs en Christ. Et si c'était moi qui l'avais pensé et qui venait vous le rappeler, vous me direz, pasteur gentil, mais vous vous êtes trompé. Mais la parole de Dieu est la parole de Dieu. Et même si elle frappe sous la vieille nature, c'est pour son bien. Parce que le Seigneur connaît chacune de nos vies ce matin. Jésus ne nous raconte jamais d'histoire, mais il nous dit ce qui est conforme à la pensée révélée des Saintes Écritures, pour que chacun, s'en faisant une application personnelle, nous puissions aller de progrès en progrès. N'allez pas dire ce matin, pasteur Gentil a mangé du top sec, hein. Je n'ai rien mangé du tout. Je n'ai rien mangé du tout. Mais quand le Saint-Esprit me donne la pensée de Dieu, et que Dieu me donne une direction pour le service, je vous l'ai déjà dit, je ne flatte jamais la chair. Je dis ce que Dieu dit. Que quelqu'un soit content ou pas, ça me fait ni chaud ni froid. C'est l'affaire du maître. Je vous ai bien dit, le maître est là. Et nous sommes ses disciples. Et si le maître parle d'une certaine manière, au travers de l'instrument qu'il a bien voulu établir, qui est le frère Claude, je suis rien du tout. Je ne suis qu'un élément utile dans la main du maître, mais le maître est là et je ne suis que son disciple comme vous. Parce que l'enseignement qu'il dispense, le premier qui le reçoit, c'est le pasteur Gentil. Il associe l'état de mon service à l'état de mon œil. Si ton œil est en bon état, tu auras pour la gloire de Dieu un service conséquent, un service adapté, un service spirituel, un service fructueux, un service béni et un service au travers duquel Dieu pourra se glorifier ainsi que son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Nul ne peut servir de maître. Car il haïra l'un et il aimera l'autre. Il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Plus mon œil est en bon état, plus je sers mon Seigneur de tout mon cœur. Je méprise ce qui est méprisable. Je rejette ce qui est à rejeter. Je cours dans la carrière qui m'a ouverte. Et parce que mon œil est en bon état, mes yeux sont fixés sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de ma foi. Et indépendamment de ce que les hommes pensent, indépendamment de ce que les hommes disent, je sais en qui j'ai cru. Et je sais que celui en qui je crois, il a le pouvoir de garder mon dépôt. Savez-vous comment l'apôtre aux Colossiens s'adresse à l'église où cette lettre, à qui cette lettre est envoyée? Colossiens 3, verset 1er. Si véritablement vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Parce que vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mais quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ton œil ne peut pas être en bon état si le Saint-Esprit qui habite ton cœur s'associe avec ton esprit, ne met en évidence à l'intérieur de ton cœur la parole de Dieu qui aura un impact conséquent autant sur ta pensée, sur ta marche, sur ta décision, parce que tu seras éclairé. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède pour science la réflexion. Est-ce que Jésus est là ce matin?
Oui.
Mais est-ce que vous êtes là ce matin?
Oui.
Bien, alors continuons. Sans commentaire. Donc nous avons vu le maître parlant à ses disciples. Il associe l'état de ton cœur à ton service. Mais c'est pas tout. Regardez le verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez, quoi? Les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et notez, et votre Père Céleste la nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si donc Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Question. Oui. Après, ne vous inquiétez donc point. Et que cette inquiétude ne vous pousse pas à cette confession et ne dites pas, quoi? Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, dites avec moi, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Mais voici ce qui doit être votre priorité. Cherchez premièrement. Quoi? Le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et puis la conclusion. À chaque jour, et vous avez lu avec moi, nous avons lu dans les versets que nous venons de partager, et à chaque fois, le mot qui revenait, c'est inquiété et inquiétude. Alors, comment le Seigneur enseigne-t-il? Il parle d'abord de l'état de mon œil, il associe à l'état de mon œil le service qui va en découler. Et là, il parle maintenant non pas de ce que mes yeux voient, mais d'une attitude d'inquiétude. Savez-vous qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent dans l'inquiétude? Ils sont inquiets. Et vous savez que l'inquiétude dans le cœur de l'homme, d'après la déclaration de Salomon, l'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas, ça le plonge dans un état d'abattement. L'abattement peut être autant physique qu'un abattement spirituel, un abattement moral. Mais une bonne parole réjouit son cœur. Alléluia. Alors, qu'est-ce que tu veux ce matin? Laisser l'inquiétude te gagner, se développer, t'entraîner, t'accabler, ou recevoir de la part du Maître, parce que tu es son disciple, une bonne parole pour réjouir ton cœur. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Une bonne parole. Bien sûr, une bonne parole, pasteur gentil. Mais, quand ton œil est en bon état, et que le discernement spirituel est conséquent, alors certes, tu seras confronté à toutes sortes de situations. Tu peux même connaître la disette. Écoutez, quelqu'un avant nous a pu déclarer dans l'épître aux Philippiens, je sais vivre dans l'abondance, mais je sais aussi vivre dans la disette. En tout, j'ai appris être rassasié et avoir faim. Et puis, il conclut, je puis tout par celui qui me fortifie. Mais ça, ça découle de l'état de ton œil et du discernement spirituel qui va en découler. Frères et sœurs en Christ, quand vous êtes attachés à Jésus-Christ, quand vous vivez en communion avec le Seigneur, vous pouvez avoir des situations difficiles à gérer, mais vous êtes débarrassés de l'inquiétude. Et vous savez ce qui vous place dans une position où vous êtes débarrassé de l'inquiétude, c'est quand vous êtes placé sous la dépendance de Jésus. Quand vous êtes dans la main du Maître, certes, vous êtes dans un monde agité. Vous n'êtes pas un de ceux qui adoptent ce qu'on appelle communément une lapalissade, comme la palisse. Vous avez des yeux bien ouverts. Vous avez des oreilles qui entendent. Vous regardez les choses avec circonspection. Loin de vous en dégager, vous y êtes confronté. Mais ça n'a pas d'impact à l'intérieur, ni sur votre cœur, ni sur votre esprit. Parce que vous savez que dans la finalité de toute chose, Dieu a toujours le dernier mot. Amen. Et le Dieu qui a toujours le dernier mot, ce matin, il est ton Père Céleste. Amen. Mais nous l'avons lu l'Écriture. Ne pas s'inquiéter, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Vous ne croyez pas que Dieu sait de quoi j'ai besoin? Il sait tout. Et le même qui sait tout, c'est le même qui peut tout. C'est le même qui est omniscient, omniprésent et omnipotent. Il contrôle tout, il dirige tout. Il a toujours en toute chose le dernier mot. Le médecin a-t-il diagnostiqué concernant ta situation sur le plan de la santé? Certes, il a fait son travail, mais c'est pas lui qui décide de ton sort. Ton sort est dans la main de celui qui tient ton souffle. Et s'il a décidé de te la conserver, de te le conserver, indépendamment du diagnostic médical, de la même manière que la maladie a fait son travail pour t'amener même, excusez-moi, aux portes de la mort, Dieu est capable de dire simplement un mot et permettre que les choses partent à contre-courant ou te faire remonter la pente. Écoutez, écoutez, écoutez-moi, écoutez-moi. Dans le livre de Job, j'ai lu. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes. Il parle par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il leur donne des avertissements. Et puis, par la douleur aussi, la Bible nous dit que l'homme est repris sous sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend le pain en dégoût, les aliments les plus exquis, sa chair se consume et disparaît, ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Il s'approche des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les mille qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, alors Dieu dit à l'ange, délivre-le, parce que j'ai trouvé une rançon. Alors, voilà le processus. Alors, sa chair reprend vie. Et puis, une fois que sa chair reprend vie, la santé lui revient progressivement, de telle manière que il peut dire, j'ai péché, j'ai violé la justice, je n'ai pas été puni comme je le méritais. Il reconnaît. Et puis derrière cela, mes amis, nous voyons que Dieu, dans sa grâce, dans la finalité, il a toujours la parole finale. Alors peut-être que ce matin, tu es atteint dans ta santé. Ça peut t'arriver. Peut-être que le médecin a déjà diagnostiqué sur ta vie ce qui va découler de la pathologie. Ça peut t'arriver. Mais le médecin, c'est un homme, mais c'est Dieu qui décide de ton sort. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Donc, à partir du moment que ton œil est en bon état, le Saint-Esprit va te donner un discernement spirituel tellement conséquent que, quelle que soit la situation que tu vas connaître, Dieu va te dégager de l'inquiétude. Et tu vas te reposer sur sa parole et ses promesses. Et tu attendras comme cela se fait dans les Lamentations de Jérémie. La Bible nous dit que il mettra son nez dans la poussière sans perdre toute espérance. Même dans le moment le plus délicat et difficile, mettre son nez dans la poussière, c'est le refuge de la prière. On s'humilie devant Dieu, on s'attend à lui. Mais malgré la situation, voici la parole qui me donnera de l'espérance, dira Jérémie le prophète. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Et si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu a renouvelé à ton égard autant ses bontés que ses compassions, que son nom soit. On va plus loin. Donc nous avons vu que lorsque l'œil est en bon état, le service est conséquent. Premier point. Deuxième point, le Seigneur va te donner aussi dans l'état de ton œil à être débarrassé de l'inquiétude qui quelquefois malheureusement pourrait travailler et chatouiller ton esprit pour essayer de s'installer en toi. Tu n'as rien à craindre. Pas ni l'inquiétude. Tu es dans la main de ton Père Céleste. Tu es dans la main de Jésus et le Seigneur va prendre simplement pour nous donner quelques garanties, il va nous amener à la leçon en considérant la nature qu'il a créée. Et il va aussi prendre dans la nature les oiseaux. Cela s'appelle la faune et la flore. C'est ça, je ne me suis pas trompé. Hein? Mais je voudrais quand même m'arrêter avec vous sur un petit détail. Jésus dit, verset 26, le Seigneur nous prend l'image. Regardez les oiseaux du ciel. Et puis le Seigneur dit, les oiseaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sèment pas. Qui sème? Les agriculteurs. Et si un agriculteur sème, c'est parce qu'il espère moissonner. Mais les oiseaux, je n'ai jamais vu un oiseau qui sème ni ne moissonne. Et puis après, il continue, il n'amasse rien dans des greniers. Ça, c'est les hommes. Mais ce qui est formidable, c'est que ce que le moissonneur a d'abord semé, le semeur a semé, ce que le moissonneur a moissonné et ce qu'il a engrangé dans le grenier, même si l'oiseau n'a pas semé, n'a pas moissonné, mais il sait où le trouver. Il est bien inquiet. Il te laisse semer. Et lorsqu'il aura faim, il saura où tu as semé, où tu as moissonné, mais aussi où tu as engrangé. Et il va se régaler pour ce que toi tu as fait. Ça va toujours? Regardons la réalité. Il n'amasse rien dans les greniers. Lisez avec moi l'écriture, s'il vous plaît. Et vous avez remarqué que Jésus ne dit pas « et Dieu les nourrit hein? ». Non, Jésus ne dit pas « et Dieu les nourrit », mais il dit « votre Père ». Pour mettre en évidence votre qualité, non seulement de disciple, mais en évidence votre réalité d'enfant de Dieu. Frères et sœurs en Christ, il n'y a aucune raison de nous inquiéter ce matin. Des fois, on se gratte la tête, on se fait du souci pour rien, nous prenons quelques cheveux blancs supplémentaires, alors que Dieu a déjà tout préparé, il a déjà tout prévu. Bon, écoutez, je sais que vous me direz, pasteur gentil, mais vous n'êtes pas à ma place. Non, je ne suis pas à votre place, je suis déjà tellement bien à la mienne que je ne peux pas être à votre place et à la mienne en même temps. Mais ce que je sais, c'est que quelle que soit la situation que tu vis, l'Écriture reste toujours l'Écriture. Et le Maître Jésus-Christ, il est toujours le Maître. Regardez avec moi, bien-aimé, ce que Jésus dit. Mais il le dit toujours dans la même direction de ne pas s'inquiéter, mais il va nous emmener dans la nature pour considérer avec les oiseaux une catégorie d'oiseaux. Et c'est ce qui est important. Cette catégorie-là, je l'ai trouvée quand j'ai lu l'évangile de Luc, le chapitre 12, et je regardais à partir du verset 6. Et pendant que vous cherchez la page, moi je vais ouvrir mon petit calepin parce que je dois vous donner quelques particularités concernant cette catégorie d'oiseaux dont le Seigneur parle ici. Pour que vous puissiez comprendre, frères et sœurs en Christ, où le Saint-Esprit veut nous amener ce matin. Alors, regardez ce que Jésus dit. Évangile de Luc, chapitre 12, verset 6. Ne vend-on pas cinq passereaux pour deux sous? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Puis le Seigneur continue, et même les cheveux, vos cheveux sont tous comptés sur, non, il n'est pas écrit sur votre tête, pourquoi vous dites sur votre tête? Et même vos cheveux sont tous comptés, point. Quand je dis sur, vous me dites votre tête, c'est pas écrit. Mais les cheveux sont sur la tête. Point. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Et je me suis permis de regarder pourquoi Jésus parle de passereaux. Tiens, ça c'est intéressant, n'est-ce pas? Il aurait pu parler des aigles, il aurait pu parler des vautours. Non, des passereaux. C'est parce qu'en réalité, il y a quelques leçons que nous allons recevoir en suivant Jésus dans la nature et en regardant les passereaux. Les passereaux, mais premièrement, mes bien-aimés, il y a quelque chose qui n'est pas à négliger. C'est le nombre, le chiffre. Jésus n'a pas dit 10 passereaux. Il n'a pas dit 3 passereaux, il a dit 5 passereaux. Vous croyez que c'est par hasard que Jésus a pris le chiffre? Tout dans l'Écriture, placé à une place, est important. Même une virgule dans l'Écriture a son importance, parce que la virgule va marquer une ponctuation. Je lève mes yeux vers l'Éternel, 3 points de suspension, réflexion. Question, d'où me viendra le secours? Réponse, le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Donc tout a son importance. Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Alors pourquoi le Seigneur parle du chiffre 5? Mais le chiffre 5 dans les Écritures saintes est un chiffre symbolique qui a un double sens. Le chiffre 5 nous parle premièrement. Bon, j'en ai déjà parlé dans d'autres messages, mais pour agrémenter la pensée, le chiffre 5 nous parle premièrement de la faiblesse de l'homme quant à ses responsabilités envers Dieu. Je répète, le chiffre 5, la moitié de 10, nous parle de la faiblesse de l'homme quant à ses responsabilités envers Dieu. Le chiffre 10 nous parle de la responsabilité de l'homme envers Dieu. 10. Et la moitié de 10 qui est 5 nous parle de la faiblesse de l'homme quant à ses responsabilités envers Dieu. Ça vous va toujours? Mais le chiffre 5 a un double sens. Le chiffre 5 nous parle de la grâce de Dieu. Donc, la faiblesse de l'homme quant à ses responsabilités est toujours couverte par la grâce de Dieu. Ou la grâce de Dieu supplée à la faiblesse de l'homme quant à ses responsabilités envers Dieu. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et là, Jésus nous parle, ne vantons pas 5 passereaux pour 2. Alors, j'ai regardé concernant les passereaux. Et j'ai trouvé toute une liste de références qui agrémenterait la pensée et nous montrait que malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, malgré nos lacunes, notre Père Céleste a décidé de prendre soin de nous. Alléluia. Oh, mes bien-aimés, si vous saviez combien Dieu nous aime, et combien dans l'alliance qu'il a conclue avec nous au travers de l'œuvre de Jésus-Christ, alliance en tout point bien réglée, alliance qui nous garantit de meilleures promesses que nous garantissait la loi, tout a déjà été prévu. Et quand vous comprenez ça, frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit vous plonge dans une paix intérieure, dans un repos conséquent. Lorsque vous êtes confronté à l'hostilité d'un monde impie, quand vous êtes confronté à des situations où vous voyez même nominé dans les hautes sphères de la société des gens qui n'ont pas honte de prononcer leur choix sur certains aspects de leur personne, même on appelle ça, il a fait son coming out, et puis il trouve ça normal. Mais moi, pasteur gentil, je ne trouve pas ça normal du tout. Parce que je vois dans les Saintes Écritures, la Bible me dit que c'est une abomination devant Dieu. Mais moi, si je vais leur dire que c'est une abomination, je vais être taxé d'homophobie, et il y a le risque que j'encours de graves problèmes. Mais moi, je dénonce ce que Dieu condamne. Oh, j'en fais pas un dada. Hein. Je n'en fais pas un dada parce que Jésus ne m'a pas établi pour pouvoir maintenant prêcher sur tel ou tel sujet plus qu'un autre. Jésus m'a établi pour prêcher sa parole. Mais, comme vous, j'ai des oreilles, j'entends. J'ai des yeux, je vois. Mais même si je ne crie pas sur les toits, à l'intérieur, le travail est fait. Je condamne ça à l'intérieur. Et puis vous comprendrez aisément que pasteur Gentil va émettre des réserves sur certains aspects. On sait qu'au sein de la politique, qu'ils font le programme, qu'ils établissent leur plan, Dieu est au-dessus de tout ce que les hommes établissent. Mais malheureusement, bien, nous sommes dans le monde, frères et sœurs en Christ. Et de plus en plus, nous allons être confrontés à ces situations-là. Excusez-moi, si vous me le permettez, j'ouvre une parenthèse que je refermerai très vite. Dans les nouvelles, nous avons entendu que le plus haut personnage de la religion catholique, il a déclaré publiquement qu'il accepterait qu'on puisse bénir un couple de deux personnes de même sexe. Frères et sœurs en Christ. Et vous croyez que Dieu va laisser ça comme ça, hein? Dieu reste silencieux sur certains aspects. Mais savez-vous qu'il peut être silencieux mais jamais inactif? Parce qu'au jour du jugement, les hommes rendront compte à Dieu de tout ce qu'ils auront prononcé. Vous avez remarqué que je dis les hommes, j'ai pas dit les justes, hein. Attention, il ne faut pas mélanger. Revenons à l'écriture. Alors, les paschaux. Premièrement, le paschaux, eh bien, il fait partie des plus petits oiseaux. Mais, même s'il est un petit oiseau, l'une des premières caractéristiques du paschaux, c'est qu'il vit en bande. Ils vivent en bande. Et vivent en bande, vous avez compris qu'il est important, en regardant les paschaux, l'unité. Ils sont petits, mais ils sont organisés. Ils vivent en bande. Deuxièmement, ce qui pourrait sembler un détail, mais les paschaux, ils ont une vue extrêmement aiguisée. Et si nous sommes sur le terrain de la vue, ça veut dire qu'ils ont des yeux en bon. Rassurez-vous, je n'ai pas été à l'école pour devenir ophtalmo d'oiseau. Mais l'Écriture me dit, d'après ce que Jésus dit, paschaux, ils ont une vue extrêmement développée. Quatrième critère, le petit paschaux, petit oiseau. Mais ils sont dotés d'une intelligence très pointue qui leur donne la capacité de s'adapter à un environnement et même s'il le faut, ils vont modifier leurs habitudes pour se protéger du danger. Un tout petit paschaux. Hein? Vous en voulez encore? Oui. Oui. Cela veut dire qu'ils sont très prudents. Le cinquième critère les concernant, petit oiseau, hein. Mais ils ont un vol très rapide. Parce que quand il y a un danger, vrou! Écoutez, moi j'ai un poulailler à la maison, et quelquefois, surtout en été, hein, je sème des grains pour mes poules, ils sortent de partout. Puis ils remplissent le poulailler pour venir se nourrir. Tout à l'heure, on a vu qu'ils n'ont pas semé, ils n'ont pas amassé, ils n'ont pas moissonné, mais c'est Dieu qui leur dit, allez chez Claude. Il a mis à manger pour les poules, vous allez trouver ce qu'il faut, allez chez Claude. Ah, je ne le dis pas, vous êtes les bienvenus, mais dès qu'ils me voient venir dans le poulailler, ils ont un vol très rapide. Ils ont un vol très rapide. Tiens! Un autre critère, qui est le sixième. Quand vous regardez leurs pattes, on va regarder leurs pattes, ils ont trois doigts. Ils vont devant, puis un doigt qui va derrière. Donc ils ont quatre doigts dans leurs pattes, mais trois se dirigent vers l'avant, et le quatrième se dirige vers l'arrière. De telle manière qu'ils peuvent s'accrocher aux branches, et en s'accrochant aux branches, ils peuvent rester dans l'équilibre. Un petit oiseau. Mais Dieu lui a donné des capacités, des aptitudes qui font qu'il subsiste. Il prospère. Il se développe. Ils sont prudents. Alors si Dieu les nourrit comme petit oiseau, à combien plus forte raison vous nourrira-t-il aussi, vous qui êtes ses enfants? Mais ça, tu peux le comprendre que si ton œil est en bon état. Ça a l'air de rien. D'où l'importance que ton œil soit matin, soit en bon état. Alors, vous savez, j'ai regardé dans les maladies des yeux et j'ai vu qu'il y a premièrement la myopie. La myopie qui est simplement un défaut de vision de loin. On voit de loin, mais c'est un peu flou. Donc on a besoin d'une paire de lunettes pour que le Seigneur nous en débarrasse. Et aussitôt après la myopie, j'ai vu la presbytie. Presbyte, ça veut dire on a du mal à voir de près. Mais moi, si j'enlève mes lunettes, je suis presbyte. J'ai besoin que les lunettes corrigent ma presbytie. Et quand je mets les lunettes, ça va. J'ai vu aussi que il y a une troisième maladie des yeux, un défaut plutôt de vision, qui s'appelle l'astigmatie. Quand vous êtes astigmate, vous avez une vision déformée des images. Et puis, j'ai vu aussi qu'il y a ce qu'on appelle une hypertrophie qui te permet ou qui fait que tu vois les objets flous, une vision floue, de près comme de loin. À la Odyssée, il était une église où le Seigneur parle dans l'Apocalypse, chapitre 3. Le messager est conduit à dire, il connaît tes œuvres. Mais il constate que malgré le fait que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, ton état prouve le contraire. Tu n'es ni froid, ni bouillant. Mais parce que tu es tiède, alors je te vomirai de ma bouche. Puisse être bouillant ou froid, mais tu es tiède. Ça veut dire que ton aspect, tu es à mi-chemin entre deux états. Alors, quand vous êtes dans cet état-là, tiède, obligatoirement, vous avez une vision faussée de la réalité. Tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Il n'y a pas plus grand danger que de s'illusionner par rapport à ce que l'on pense de soi, alors que dans la réalité, d'autres voient que vous êtes un danger pour vous-même et que vous ne faites que vous enfoncer alors que vous proclamez vous en sortir. Non, non, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour que tu sois riche. Et l'or éprouvé par le feu, c'est ce que nous parle, c'est ce qui nous parle de la foi. La foi éprouvée, la vraie foi est toujours éprouvée. Avec la foi éprouvée, des vêtements blancs, afin que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et quel vêtement blanc ce matin peut permettre que je sois habillé conformément au plan de Dieu? C'est la justice de Christ qui habille mon âme. Et avec l'or éprouvé par le feu, avec les vêtements blancs, il rajoute une troisième chose. Un collier pour oindre tes yeux. Et ce matin, je connais un collier spirituel que Dieu me donne et que le Saint-Esprit en action va appliquer non pas à mes yeux physiques, mais à mes yeux intérieurs. Pour qu'ils soient en bon état. Afin que je puisse discerner. Voir. Et associer à l'état de mon œil le service pour Christ, le bannissement des inquiétudes et tout ce qui va en découler quand mon œil est en bon état. Pour ouvrir le sujet, nous avons applaudi Jésus qui est au milieu de nous, n'est-ce pas? Nous avons laissé nos applaudissements aller vers le maître, puisque nous sommes ses disciples. Alors si le maître nous enseigne, il sait ce qu'il fait et il sait quel enseignement dispenser à ses disciples que nous sommes. Allez, allez, on conclut. On conclut parce que je sens que si je m'écoute, on est là pour un bon moment. Mais il y a un temps pour tout, n'est-ce pas? Il y a un temps pour tout. Alors, on a vu comment le Seigneur nous parle de passereaux. 5 passereaux pour 2 sous. Et d'ailleurs, les passereaux, nous avons compris pourquoi le Seigneur en fait mention. Mais revenons maintenant à notre texte initial, l'évangile de Matthieu, le chapitre 6. Et nous allons maintenant passer après ce qui découle d'un œil en bon état qui me donne dans cette paix intérieure le discernement spirituel adapté à ne pas me laisser aller à l'inquiétude puisque mon Père Céleste sait de quoi j'ai besoin et s'il prend soin des oiseaux des champs, vous savez, j'ai même pas eu le temps de vous parler des lys. Les lys, chaque lys a une couleur selon ce que Dieu lui donne. Mais le Seigneur prend l'image des lys, une fleur des champs qui paraît aujourd'hui et qui demain est coupée et jetée au four, mais il prend l'image de Salomon, alléluia. Et l'invocation de Salomon dans ce contexte-là n'est jamais faite gratuitement. Salomon, ce qui le caractérise, c'est la gloire que Dieu lui avait donnée. Et tout ce qui pourrait être vu concernant sa garde-robe, enfin toute la gloire que Dieu lui avait donnée, il n'y a eu aucun roi ni comme Salomon, ni avant lui, mais aucun roi comme Salomon, ni après lui. Spécial, particulier. Ce matin, tu n'es pas Salomon, tu es ce que tu es. Mais le Dieu de Salomon, il est ton Père Céleste ce matin. Bien, alors regardez avec moi une chose encore qui va découler d'un œil, dites avec moi, en bon état. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, alors tout ton corps est dans les ténèbres. Et je comprends pourquoi Jésus, aussitôt après avoir parlé ainsi, il ouvre le chapitre 7. Jésus ouvre le chapitre 7 avec une parole. Je vous ai dit cette parole que Jésus dit concerne nous tous ce matin. Bien, alors, regardez ce que Jésus dit. Et que personne ne dit, c'est le pasteur qui a dit, hein. Le pasteur ne dit que ce que dit l'Écriture. Regardez ce que Jésus dit. Matthieu 7, 1. Lisez. Je n'ai pas entendu. Lisez. Lisez plus fort. Jésus est là. À ce que vous avez lu, je dis amen. Mais est-ce que vous vous dites amen à ce que vous avez lu?
Amen.
Bon, vous avez dit amen. C'est bien de dire amen. Mais entre l'amen que vous venez de dire et la réalité que Dieu voit, pardon? Eh bien, Jésus inclut ce que nous venons de lire comme un résultat qui va découler quand ton œil est en bon état. Quand ton œil est en bon état, tu ne juges pas les autres. On ne juge pas les autres. Dans son ministère, Jésus ne perd pas de temps pour juger. Il leur disait, si moi je juge, mon jugement sera vrai. Mais quand nous jugeons, trop souvent nous jugeons selon l'apparence. Deuxièmement, nos jugements, quelquefois sont faussés parce que nous n'avons pas toutes les données. Des fois, nous jugeons sur un oui-dire, ce que nous avons entendu, ce qui nous a été rapporté, Et ce que nous avons entendu, qui nous a été rapporté, influence notre comportement. Dans le livre d'Osée, il y a une parole que le prophète rapporte, que Dieu lui a dit, « Va et aime une femme, mais une femme de mauvaise vie. Une femme qui a eu des amants, il faut l'aimer. Alors si vous le voyez, aimant une femme dont vous connaissez la vie, tout de suite vous allez juger. Mais en le jugeant, il est dans le plan de Dieu. C'est Dieu qui lui a donné une direction. Mais vous qui jugez, vous n'êtes pas Dieu. C'est pourquoi Pasteur Gentil se garde rapidement, essaie de se garder du mieux qu'il peut de juger les autres. Non seulement je me garde de juger les autres, mais je me garde aussi de commenter les commentaires. Je n'ai pas de temps à perdre. Parce que Jésus m'a dit, Claude, on va te juger de la manière que tu juges. On va te mesurer de la mesure que tu auras servi pour mesurer les autres. Oh Seigneur, donne-moi un œil toujours en bon état. Jésus est là, mes bien-aimés. Et le maître qui s'adresse à nous ce matin, il s'adresse à chacun en particulier. Parce que dans ce domaine-là, on est tous concernés. Et puis en jugeant les autres, vous savez ce qui se passe? Savez-vous ce qui se passe en jugeant les autres? Dans l'évangile de Marc, Jésus donne un enseignement. Non pas autant à ses disciples, mais à la foule. Jésus leur dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le suit, mais c'est ce qui sort. Tiens, comment ça? La loi disait qu'il ne fallait pas manger certains animaux, il y avait des animaux purs et impurs, les animaux impurs, il ne fallait pas les manger, et les animaux purs, il fallait les manger. Et toi, Jésus, tu viens ruiner tout ce que Moïse nous a dit depuis des siècles dans la loi et que nous sommes efforcés d'appliquer. Mais savez-vous que la loi n'a rien amené à la perfection? La loi a fait simplement une chose, il a libéré la puissance du péché et la condamnation du pécheur. Mais quand la grâce vient, la grâce ne dit pas au pécheur, eh bien, tu es parfait. Non! La grâce dit au pécheur, repends-toi. Une fois que le pécheur s'est repenti, il passe d'un état de pécheur à un état de juste. Il devient un disciple de Jésus. Et mieux que, qui peut mieux que le maître enseigner son disciple? Mais qui peut mieux non plus que le disciple recevoir l'enseignement du maître et se l'appliquer personnellement? Ah, là, il y a encore des choses qui, malheureusement, nous mettent sur le terrain de nos responsabilités. Ne jugez point, afin que vous soyez point jugés. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Quand en faisant cela, c'est comme si tu amassais des charbons ardents sur sa tête. Et certaines personnes ont pensé qu'amasser des charbons ardents sur la tête, ça veut dire c'est appeler sur lui un jugement de Dieu. C'est pas ça. C'est pas ça. Il faut comprendre le développement de la pensée de l'esprit et se laisser aller à l'intelligence renouvelée pour comprendre que l'explication arrive du fait que du temps de la Bible, eh bien, il faisait le repas sur du charbon et des fois sur du bois. Or, il arrivait que sortant des champs, un juif n'avait pas de feu. Alors, il demandait à son voisin, « Voisin, as-tu un peu de tison ardent pour que je puisse maintenant faire du feu chez moi ?» Et le voisin lui disait, « Viens et serre-toi. » C'est comme s'il lui donnait quelque chose de précieux. Eh bien, amasser des charbons ardents sur la tête, c'est donner quelque chose de précieux, d'important, d'utile. Mais c'est pas un jugement que tu as tiré sur lui. Ma bien-aimée, j'ai encore d'autres points à partager avec vous, mais je pense que pour ce matin, cela suffira. Il y a encore d'autres points, mais ce que nous avons vu ce matin dans la présence du Maître, premièrement, l'association du service au discernement spirituel, comme on est en bon état, l'inquiétude qui est dégagée de mon cœur, comme mon œil est en bon état. Après, la considération des oiseaux du ciel, même le passereau, dont on vend 5 pour 2 sous, Dieu me dit que j'ai plus de valeur qu'eux. Et puis, ne pas juger, comme cela arrive quelquefois, quand c'est ma vieille nature qui prend le gouvernement de ma vie chrétienne, obligatoirement ma vieille nature va toujours s'exprimer, mais en cherchant à s'exprimer, il va toujours se placer au-dessus des autres pour vouloir montrer qu'il est meilleur. Parce que quand vous jugez finalement, c'est parce que vous estimez que vous êtes meilleur que les autres. Mais dans cette position-là, excusez-moi de vous le dire, c'est exactement comme ça que fonctionne l'orgueil. L'orgueil, l'orgueilleux, il est toujours meilleur que les autres. Il se place toujours sur un piédestal. Il a tout vu, il a tout connu, il sait tout. Misérable. Jésus dit hypocrite. Jésus dit hypocrite. Tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu as une poutre dans le tien. Mais quand ton œil est en bon état, pour ne pas juger, tu ôtes d'abord la paille dans ton œil, et après tu vas dire au frère, « Frère, excuse-moi, laisse-moi enlever la poutre qui est dans ton œil. » C'est-à-dire tu vas surmonter le mal par le bien. Oui, là, tu vas d'abord enlever la poutre de ton œil, et après tu pourras dire, parce qu'une poutre c'est quand même quelque chose de conséquent, alors, s'il y a une poutre dans ton œil, alors je crains que tu ne vois pas de très loin. Jésus est là? Eh bien, disons-lui merci pour ce qu'il nous a dit ce matin.